La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver, surtout qu'on va commencer en musique avec un petit extrait de ceci. Alors, la raison pour laquelle je vous fais écouter du Lizzo, alors qu'habituellement, je vous ferais plutôt écouter du Leonard Cohen ou du Georges Moustaki, qui est plus dans mes cordes, c'est parce que ma prochaine invitée travaille en ce moment avec Lizzo et que très bientôt, elle va être maître à Révolution. Elle est chorégraphe, directrice artistique. Elle s'appelle Mel Charlot. Et pour mieux la connaître, on a décidé de l'appeler pour lui faire un petit brin de jazzette. Mel Charlot, bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
Ben moi, je vais très bien. Écoutez, vous, ça doit bien aller aussi depuis qu'on a appris et que vous aussi, vous avez appris ce nouveau rôle donc à l'émission Révolution. Est-ce que avant d'avoir l'appel, vous écoutiez Révolution ou en fait que vous connaissiez Révolution?
Oui, je connaissais Révolution. Je regardais, j'essayais de prendre quelques émissions de loin. J'avais aidé beaucoup d'anciens élèves et de danseurs se préparer pour des auditions et puis regarder de loin parce que j'aimais ça.
Alors, de loin, parce que vous, votre vie, même si vous êtes né au Québec, votre vie, votre talent vous a amené à travailler beaucoup à l'étranger. En ce moment, vous nous appelez d'où, Mel?
Présentement, je suis à Los Angeles. On se prépare pour la tournée avec Lizzo. On s'en va en Europe pendant un mois.
Un mois. Alors, vous allez donc... Lizzo, c'est vraiment en ce moment une vedette là, vraiment qui casse la baraque. Votre rôle avec Lizzo, c'est à la fois de créer des chorégraphies et d'être avec elle sur scène. Ça consiste en quoi exactement, votre rôle?
Oui, en effet, j'assiste la chorégraphe, donc je suis assistante chorégraphe. Ce qui veut dire, c'est que j'aide avec la chorégraphie, avec le mouvement, pour que ça soit pour les os et les danseurs. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, l'artiste et la chorégraphe m'ont demandé si je voulais danser également. Et bon, je me suis dit que ça serait une belle opportunité, donc j'ai sauté là-dessus.
Alors, ça va être très occupé pour vous cette année, 2023, ça va être une grosse année, parce que vous venez de nous le dire, donc une tournée en Europe avec Lizzo. Ce rôle-là, comme maître à Révolution, comment vous allez faire pour concilier tout ça, puis en plus, concilier la fameuse conciliation qu'on a tout à faire, nous les mamans, la conciliation travail-famille?
Ah oui, c'est un beau monde ça.
Ouais, hein?
Écoutez, c'est vrai, c'est sûr, c'est un défi, mais c'est beau en même temps, puis c'est possible. Quand c'est pas possible, ben, je veux dire, c'est des décisions à prendre. Mais pour l'instant, ça fonctionne de pouvoir revenir à la maison et être maître de Révolution, ça va fonctionner, c'est incroyable. Je suis extrêmement contente. Et puis ma famille sera à Montréal également, donc c'est un retour à la maison. Ça a fonctionné, les planètes se sont alignées.
Les planètes se sont alignées. Comment vous voyez ce rôle-là? Parce que vous devez à la fois être bienveillante, donner des conseils constructifs, et en même temps, il faut une certaine sévérité, il faut être exigeant. Donc, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Ça va être quoi la méthode Mel Charlot?
Parce que j'ai enseigné pendant des années, j'étais professeur pendant tellement longtemps et j'ai mentoré tellement de danseurs, j'ai toujours eu le cœur de maman. C'est-à-dire que je vois exactement c'est quoi le potentiel et je veux toujours que les élèves ou bien dans cette situation, que les danseurs qui se présentent ressortent avec quelque chose qui va toujours les faire grandir. Donc, c'est sûr que je vais être exigeante par rapport à la technique, par rapport à ce qu'ils apportent à l'émission, mais je veux toujours qu'ils ressortent de ça élevés puis avec la tête haute et prêts à quelque chose de nouveau.
Mais j'aime beaucoup quand vous dites élevé, parce que dans le fond, c'est un petit peu ça aussi, le rôle, aussi bien quand on est professeur, quand on est enseignant, que quand on est coach dans ces différentes émissions-là, que ce soit La Voix, que ce soit Révolution ou d'autres émissions, c'est de prendre des gens qui sont, disons, à un certain niveau, à un certain moment de leur vie, à une certaine expérience, et de les amener plus haut. C'est une très belle image, ça, élever les gens et surtout pas les rabaisser.
Absolument, absolument. C'est la danse, c'est un langage universel, c'est-à-dire que ça peut rejoindre n'importe qui à n'importe quel âge. Donc c'est important de savoir que c'est une passion, c'est un cadeau, c'est pas juste est-ce que tu l'as bien fait ou tu l'as mal fait. Il y a un message qui est toujours attaché avec ça. Quelque chose de plus qui ressort de tout ça. Donc, il faut garder ça en tête aussi.
Alors, j'avais envie de vous parler pour qu'on apprenne à mieux vous connaître, parce que ceux qui sont déjà là, bon, évidemment, Jean-Marc Généreux, Lydia, on les connaît. Vous prenez la place des twins qui étaient là, les deux frères jumeaux, donc, qui étaient là. Comment vous avez envie de vous présenter? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous, Mel, qui est important pour comprendre votre personnalité?
C'est une grosse question. J'ai honnêtement envie de dire, vous devez juste regarder l'émission la prochaine saison.
Ah, c'est trop facile, ça. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, là.
Honnêtement, je suis extrêmement passionnée. J'adore la danse. J'adore tous les styles de danse. Je suis quelqu'un de très passionné, très souriante, j'ai une grosse personnalité. Donc j'ai vraiment hâte. J'aime beaucoup Lydia et Jean-Marc. Donc je pense que ça va être vraiment quelque chose de super beau à regarder. Juste nos réactions puis nos trois cœurs qui réagissent à ce qu'on voit sur scène.
Ouais,
mais il y aura plein de petites affaires aussi qui vont ressortir, je suis sûre.
Je suis certaine. J'ai reçu la saison dernière, j'ai reçu Jean-Marc Généreux à la maison pour un balado que j'anime qui s'intitule L'apéro piquant. Alors il est venu prendre l'apéro chez moi dans mon salon et j'ai dit à Jean-Marc, j'ai deux pieds gauches. Je ne sais pas danser. J'adore danser, mais je suis pourrie. Alors, je lui ai donné le défi d'essayer de me faire danser. Donc, il a essayé de me faire danser une sorte d'espèce de cha-cha, salsa, merengue, bachata, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez, vous, Mel, que tout le monde peut danser?
Oh, absolument.
Oui?
Absolument. Il y a une connexion à l'intérieur de chacun d'entre nous, à soi, que ce soit la musique ou un sentiment, quelque chose qui nous fait vouloir bouger. Donc, je pense que c'est tout absolument possible pour tout le monde de danser.
Mais je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a vu des images circuler de Donald Trump qui était à un événement, puis ils se sont mis à jouer de la musique. Puis Donald Trump a fait comme des espèces de petits gestes coincés. Il avait l'air d'un pingouin neurasthénique. Pensez-vous que vous seriez capable d'apprendre à Donald Trump à danser?
S'il me le permettrait, je pense que oui, mais il faudrait faire beaucoup de connexions intérieures avant.
Qu'est-ce que vous voulez dire de la connexion intérieure? Pour rester poli, hein, pour rester poli.
Absolument. Absolument, absolument. Je veux dire une connexion intérieure.
Ouais.
C'est-à-dire de pouvoir vraiment connecter avec des sentiments intérieurs. Donc, comme j'ai dit, la danse, je pense que c'est vraiment toujours connecté, que ça soit à l'amour ou bien une frustration,
ouais,
ou bien une déception ou bien de la joie. Je veux dire, il y a toujours une connexion avec le mouvement. Donc, je veux dire, je sais pas s'il a réussi à danser comme un pingouin. Je sais pas, je l'ai pas vu.
Vous taperez ça. Vous taperez ça, Donald Trump dance, puis vous allez voir, c'est particulier. Quand on regarde la liste de tous les gens avec qui vous avez travaillé, bon, on a évidemment mentionné Lizzo tout à l'heure, mais il y a Cardi B, Beyoncé, Mariah Carey, P. Daddy, Busta Rhymes, Kanye West, ben là, je sais même plus comment faut l'appeler, Kanye West, maintenant, Pharrell Williams. C'est lequel le plus sympathique?
Plus sympathique. Il y a un des noms qui sort que c'est pas dans la liste que vous avez dit.
Ah.
C'est Faith Evans. Ça, c'est lorsque j'ai travaillé avec P. Diddy puis dans les Bad Boys.
Ouais.
Et elle est vraiment, vraiment, elle était vraiment incroyable. C'était la femme de Notorious B.I.G. Et c'était quelqu'un de grand dans le hip-hop. Donc, c'était un plaisir, un honneur de travailler avec elle. Mais définitivement, je peux mettre les autres dedans. Parce,
ouais,
que elle a tellement un grand cœur. Puis elle utilise sa plateforme puis son pouvoir de pouvoir aider les gens qui n'ont pas de voix, les gens qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer, les gens qui n'ont pas justement de plateforme. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc, moi, je la trouve super sympathique. Sinon, je pense pas que je danserais pour elle.
Oui, mais ce qui est super intéressant aussi dans le cas de Lizzo, c'est que c'est quelqu'un qui... comment dire, c'est quoi les bons termes à utiliser aujourd'hui, qui est ronde et qui, beaucoup de ses interventions, beaucoup de son message, c'est ce qu'on appelle en anglais « body positivity », c'est le mouvement, disons, de la valorisation de la diversité corporelle. Ça doit aussi vous toucher.
Oh, absolument. Ça a toujours été quelque chose que j'ai eu un peu de trouble en grandissant. Je veux dire, j'ai toujours voulu être plus petite ou quoi que ce soit, ressembler à celle qui était dans le magazine. Et puis, c'était pas vraiment le cas. Et ça m'a pris du temps à pouvoir justement aimer de quoi j'avais l'air ou bien comment j'étais. Et puis, ça m'a retouchée encore après que j'ai accouché.
Ah oui?
Mon corps était complètement différent. Je dansais différemment. Je veux dire, j'ai eu une césarienne d'urgence. Donc, c'était vraiment...
Wow.
C'était un gros choc de vie.
Oui.
Et puis là, tout d'un coup, je commence à travailler avec quelqu'un qui me montre, c'est comme me met un miroir devant moi puis m'apprend à aimer ce que je vois.
Et à c'était ce
vraiment point-là. Quelque chose qui était super important ensuite en devenant maman également, puis l'amour que je redonne ensuite à mon enfant ou à n'importe qui d'autre que je croise et que je mentore. Donc c'est vraiment important ce genre de mouvement-là, c'est vraiment, vraiment super.
Mais je trouve ça magnifique. Vous dites que l'ISO vous a donné un miroir pour que vous aimiez ce que votre corps est devenu. Est-ce que je le résume bien ou c'est trop simpliste?
Oui, en sens figuratif, c'est-à-dire que avec les outils, les genres de choses qu'on avait à faire, ou bien même avec ses paroles, ses musiques, et même ce qu'elle fait elle.
Oui.
Ça a vraiment aidé justement à trouver une nouvelle voie pour moi.
Ouais.
Parce que lorsqu'on devient maman, je pense que beaucoup de mamans seraient d'accord avec ça, c'est il faut retrouver un amour pour soi.
Absolument.
Après, on donne tellement, tellement, tellement.
Oh mon Dieu, vous avez tellement raison, Mel. Je vous connais pas, puis déjà, je vous aime.
Oh, merci, c'est gentil.
Mais c'est un message qui est extrêmement important que vous envoyez là et que Lizzo aussi. Alors écoutez, quand est-ce que vous partez? La tournée commence quand en Europe?
Elle a le gala, les Brit Awards, qui commence d'abord la semaine prochaine. Et ensuite, on prend la route.
Et bye-bye. Bon, ben alors on va vous souhaiter bonne chance, bonne valise, sayonara, et merci beaucoup, puis bonne chance aussi à Révolution, puis là après, on a passé quand même un bon 12 minutes ensemble, on a l'impression qu'on vous connaît quand même un tout petit peu, puis déjà l'énergie passe à travers le micro avec toutes les heures de décalage et les heures de distance avec Los Angeles, on sent déjà votre énergie, merci beaucoup Mel Charlo.
Oh, merci beaucoup, c'est gentil, j'ai très hâte. À bientôt.
Merci, Mel. Au revoir.
vie avec Anne-Marie.
Et oui, au lit avec Anne-Marie, je suis très contente d'avoir une toute nouvelle chronique. À chaque semaine, on va parler avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. On ne laissera aucun tabou nous arrêter, aucun mythe qu'on ne pourra pas démystifier, aucun mot qui sera interdit. Anne-Marie Ménard, donc, qui est au bout de la ligne. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Sophie.
Alors, j'ai fait une entrevue avec toi il y a quelque temps et puis toute l'équipe, on est tombé, on a vraiment craqué pour toi, puis on s'est dit Anne-Marie, il faut lui parler plus souvent. Alors, tu vas être avec nous chaque semaine. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui n'aurait pas lu tes livres, n'aurait pas vu tes interventions sur les médias sociaux, ne t'aurait jamais entendu? Tu te présenterais comment, Anne-Marie?
C'est une bonne question. Donc, effectivement, je suis professionnelle en sexologie, ce qui veut dire que j'ai un baccalauréat en sexologie. Et j'ai une petite saveur féministe à mon discours parce que j'ai aussi un certificat en études féministes. Donc, je fais de la vulgarisation, entre autres, sur les réseaux sociaux en lien avec l'éducation sexuelle. C'est ma mission d'éduquer les gens puis de transmettre mes connaissances au meilleur de mes connaissances.
Alors, la vulgarisation sans aucune vulgarité, moi j'aime bien ça. Alors, on va commencer cette première chronique. Donc, je l'ai dit, sans tabou et sans préjugés, en mettant carte sur table. Je veux juste faire une mise en garde pour ceux qui savent avec qui je partage mon lit. Je ne parlerai pas de ma vie personnelle dans cette chronique, soyez-en avertis. Quoique, peut-être que des fois, je vais donner des petits indices. Anne-Marie, tu voulais pour le premier sujet. On va parler de pornographie et de sodomie. Pourquoi les gens consomment de la porno?
Donc, les gens consomment de la porno principalement pour susciter l'excitation sexuelle, donc pour permettre de pimenter la vie sexuelle, de stimuler la libido, ça nous sert d'inspiration, on veut stimuler nos fantasmes sexuels et même peut-être ouvrir la discussion sur certaines pratiques. Mais bien que tout ça semble très positif, il faut faire attention parce que sa consommation peut entraîner des conséquences et avoir des impacts négatifs sur la sphère intime.
D'après toi, il y a plus de conséquences dans la tête des gars ou dans la tête des filles?
C'est une bonne question. Je dirais que ça a des conséquences pour tout le monde. Bien sûr, la pornographie va avoir des scripts sexuels qui vont avantager les hommes. Donc, on va avoir des scripts qui vont vraiment être centrés sur le plaisir des hommes, qui vont être très phallocentrés. On va avoir des scripts sexuels où la femme va être extrêmement soumise. Mais je pense qu'en tout et pour tout, ça a des impacts négatifs pour vraiment tout le monde. Et j'ai même envie de dire que malheureusement, c'est devenu une source d'éducation à la sexualité pour les jeunes. Donc, c'est vraiment tout le monde qui est impacté par ça.
Quand tu dis phallocentré, donc centré sur le phallus, comme si c'était le début et la fin, et puis que c'était le bout du bout, cette affaire-là, alors que, oui, ça fait partie évidemment de l'équation, mais il n'y a quand même pas juste ça. Quand tu dis que très souvent dans les scénarios, la femme est soumise, est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait des femmes qui aiment ça? C'est-à-dire que, rappelle-toi par exemple, quand un livre comme 50 nuances de Grey, ou enfin 50 Shades of Grey est sorti, il y a beaucoup de féministes qui disaient, mon Dieu, c'est effrayant, une femme qui aime être soumise, mais il y a quand même des centaines de milliers de femmes qui ont acheté ce livre-là. Donc, il y a des femmes qui aiment ça.
Il y a des femmes qui aiment ça, c'est vrai. Après ça, on peut partir et philosopher sur le sujet et se demander comment ça crée nos fantasmes. Est-ce que nos fantasmes sont parviennent de l'inconscient, notre imaginaire collectif par lequel on est dans un système patriarcal, évidemment. Donc, les femmes ont peut-être moins de privilèges que les hommes. Et peut-être que le fantasme collectif se crée ainsi. Mais effectivement, je veux dire, toute pratique sexuelle est bonne et valide tant qu'on ne compte pas préjudice à soi ou à autrui. Et puis, il y en a qui aiment ça, la soumission, c'est clair.
Ah d'accord, ça j'aime bien cette prémisse de dire de toute façon, ce qui se passe entre nos deux oreilles ne regarde que nous, et tant qu'on fait pas de mal à quelqu'un, vous pouvez bien avoir du fun puis vous envoyer en l'air de la façon qui vous plaira. Ce qui nous amène justement à parler de la sodomie, c'est pas pour tout le monde. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par une définition? C'est peut-être pas tout le monde qui sait quelle partie rentre où.
Quand on parle de sodomie, on parle en fait de relations sexuelles anales. Donc, c'est un rapport sexuel par l'anus qui consiste en une pénétration soit du pénis, d'un doigt ou d'un objet, comme un jouet sexuel, par exemple. Mais le terme sodomie était surtout utilisé au niveau législatif dans le temps. Donc, je dis dans le temps, mais ce n'est pas si longtemps que ça.
C'est vrai.
C'était pour décrire une infraction. De là, tous les tabous en lien avec cette pratique-là. Hein, on parlait d'une grossière indécence. Et ça fait pas si longtemps que ça que le code criminel a été modifié afin de décriminaliser la sodomie. Donc, c'est en 1969 qu'entre...
Excuse-moi, c'est 69, ça fait rire, oui.
Oui, oui. Donc, je vois d'où ça vient. Mais effectivement, si on a décriminalisé entre sexes opposés ou entre adultes âgés d'au moins 21 ans. Pourvu qu'il y ait du consentement. Et là, en 1988, la sodomie a pris le nom de relation sexuelle anale, donc on ne sait plus vraiment le terme, et l'âge du consentement pour la pratique est passé de 21 à 18 ans. Et il y a des gens qui considèrent que c'est une discrimination parce que le consentement pour les relations sexuelles vaginales est de 16 ans.
Donc, 16 ans pour vaginal, 18 ans pour anal. Donc, même au niveau de la loi, il y a une discrimination entre rentrer par la porte d'en avant ou rentrer par la porte d'en arrière. Est-ce que c'est parce que dans la loi, on fait la différence, qu'il y a des gens qui sont réticents, ou c'est parce que les gens sont réticents que dans la loi, on fait une différence?
Oh mon Dieu, la poule ou l'œuf, hein?
Ouais.
Je ne suis pas certaine, mais je pense que ça vient, tous les tabous en fait en lien avec la sexualité proviennent de la religion, proviennent du système dans lequel on grandit, on est socialisé. Donc, je ne suis pas certaine d'où ça vient, mais je pense que plus on va ouvrir la discussion sur le sujet, qu'on va normaliser certaines pratiques, je pense que là, il va y avoir un changement législatif, mais aussi au niveau sociétal.
Très intéressant, en effet. Puis le changement législatif serait sûrement bienvenu. Puis c'est quand même hallucinant que la loi fasse une différence entre, comme je le disais, qu'on rentre par en arrière ou qu'on rentre par en avant. Quand tu parles avec des filles, la question qu'elles te posent le plus souvent par rapport à la relation sexuelle anale, on va l'appeler comme ça, vu que sodomie, c'est vraiment plus un terme légal, la relation sexuelle anale, la question qui revient le plus souvent, ou la crainte, disons ça, qui revient le plus souvent, c'est quoi?
Est-ce que ça fait mal? Donc, on veut savoir si ça fait mal. On entend ça énormément. Puis, on considère le vagin comme étant un organe sexuel, mais l'anus un peu moins. Et c'est moins organique et naturel. Donc, ça fait partie des mythes qui circulent autour de la pratique. Puis, on a peur d'avoir mal. Mais j'ai envie de vous dire que si on est bien préparé, qu'on est vraiment ouvert, qu'on a envie de le faire, ben il y a une façon de faire pour que ce soit plaisant.
Oui. Et ça s'applique autant, donc, pour relation un homme avec une femme avec une femme aussi, parce que il y a toutes sortes d'accessoires qui peuvent être utilisés. À quoi il faut faire attention pour pas se blesser ou blesser le partenaire?
Donc, d'y aller tranquillement. J'aime beaucoup dire que l'anus est un trou universel. Donc, j'adore dire ça. Mais donc, pour tout le monde, en fait, ça va être de préparer l'endroit. L'anus contient énormément de terminaisons nerveuses, comme le clitoris, comme le pénis, comme le corps en entier. Donc, il y a façon de protéger, donc avec du lubrifiant, on commence doucement, on commence avec des petits objets, puis ensuite, quand on se sent plus à l'aise, détendu et en confiance, là, on peut augmenter la grosseur de l'objet ou de ce qu'on veut insérer là, à ce niveau-là.
Ou de la partie du corps. Tu l'as mentionné, Anne-Marie, et c'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, parce que tu parles des terminaisons nerveuses et également du plaisir qu'on y ressent. Tu parlais tout à l'heure du clitoris. C'est important de le rappeler, on le rappellera jamais assez. Le clitoris est le seul organe humain entièrement dédié au plaisir. Sa seule raison d'exister, là, c'est le plaisir. Puis les gars n'ont pas ça. Ils n'ont pas un organe qui est juste pour leur plaisir. Leur pénis, il sert au plaisir, mais il sert à d'autres affaires. Nous, on a un clitoris et il ne sert qu'à ça. C'est quand même formidable.
Oui, c'est formidable. Donc, n'hésitez pas à le stimuler.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Anne-Marie. Très instructif comme première rencontre. J'ai déjà hâte à la deuxième. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, qui va être avec nous chaque semaine. Merci beaucoup. Au lit avec Anne-Marie.
Merci.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Sophie Durocher.
Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La rencontre Nantel Durocher.
Non, c'est pas une joke.
Sophie Durocher.
Duduche, elle va se défendre.
Guy Nantel.
Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
C'est à s'arracher les cheveux sur la tête.
La rencontre Nantel Durocher.
Ça va être quelque chose. Excuse-moi, c'est parce que je viens d'entendre la nouvelle, la nouvelle introduction pour notre rencontre. Écoute, avant de commencer, j'ai une petite musique à te faire écouter. En fait, une petite chanson à te faire écouter.
OK.
L'hiver, maudit hiver, les draps serrés, les mains chercher les patriotaires.
Alors, c'était Dominique Michel qui chantait sa fameuse chanson « Jaggy l'hiver ». C'est un petit peu de ça que tu veux nous parler. C'est notre hystérie collective face à l'hiver et le froid.
Ouais, moi, j'haïs pas l'hiver. J'haïs le monde qui souligne trop fort, trop souvent à quel point l'hiver devient comme un danger. Écoute, tu peux plus ouvrir un site Internet sans qu'il n'y ait pas un bandeau rouge. Il arrête la programmation, alerte météo. Il va y avoir de la neige, il va y avoir du froid. Il y a la chaleur à corps blanc l'été. Puis sont avec nous dire que l'automne, il y a des feuilles qui tombent. On sait tout ça. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, revenez-en. Moi, j'ai une grande révélation. Là. Des fois, en février, il fait froid. OK? Fait que arrêtez-moi ça. Là, c'est vraiment température de froid infernal, du froid extrême, du froid polaire. Et seulement pourquoi les gens sont anxieux puis qu'ils font de l'obésité parce qu'ils sortent plus dehors. C'est ça qu'ils répètent au monde. Ils disaient ça aujourd'hui. Ne sortez pas sauf en cas de nécessité. Tu dis pas ça au monde. Et il y a même quelqu'un hier, j'écoutais ça aux nouvelles, la personne disait, là, les chiens et les chats, vous gardez ça en dedans. Les coussinets, ça gèle en 5 minutes. Je suis allé marcher au parc tantôt, le parc à chiens, là. Écoute, il y avait au moins 10 chiens qui sautaient comme des fous. Ils me regardaient en me disant, quelle magnifique journée. Puis, pendant ce temps-là, t'as les humains qui font, ça fret. Tu sais pourquoi ils se fret? Parce que tu mets pas de sucre, pas de mitaine. Ça va faire.
J'adore ça. Bien non, surtout que dans ton cas, t'es mieux de mettre une tuque parce que sinon, en tout cas, bon, bref. Mais je suis d'accord avec toi en partie. Je pense qu'il y a évidemment une énorme part de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle les météorologues, je te parle pas des médias et tout ça, mais il y a une raison pour laquelle les météorologues ont pas le choix que de prévenir quand il y a donc alerte grand froid, alerte température extrême. C'est que ça a des conséquences. Par exemple, sur la surconsommation d'électricité, par exemple sur le bien-être des personnes en position d'itinérance, mieux connues sous des sans-abri, parce que il y a des risques d'engelure, parce que évidemment à chaque fois il y a des tatas que ça n'oublie pas comme du monde, et je te dirais de façon plus précise et familiale, les ados. Un ado qui déjà s'habille pas l'hiver, la seule façon de le convaincre de s'habiller comme il faut quand il fait moins 25, c'est de prendre ton cellulaire et de dire, regarde, même le gouvernement nous dit que c'est une alerte et que c'est des températures extrêmes. C'est à peu près la seule chose pour le faire, digodiner puis mettre une tuque sur sa tête.
Oui, mais on a été ados, nous autres aussi, Sophie, franchement. Et ils nous achalaient pas de main avec ces histoires-là. Non, non, mais tu parles des météorologues. Écoute, il y en a un qui parlait un matin, je pense que c'était avec Paul Arcan. Là, évidemment, il parlait de froid polaire et tout ça. Puis il lâche la phrase, c'est clair qu'on pourrait pas endurer ça pendant plusieurs jours. Oui, on pourrait endurer ça pendant plusieurs jours. Il y a plein de monde sur la Terre qui vivent à moins 20 degrés 100 jours consécutifs par année. Puis ils savent pas qu'ils sont dans l'enfer de glace parce que pour eux autres, l'enfer, ils pensent qu'il fait chaud en enfer. Mais on leur répète sans arrêt à cette heure que c'est terrible, c'est épouvantable. Écoute, es-tu? Carnaval de Québec, ouais, annuler des événements parce qu'il fait froid. Qu'est-ce que c'est un festival de glace? C'est ça le principe. Puis après ça, oui, bon, OK, les sans-abri, mais ça me fait rire encore une fois. Les sans-abri, tout le monde s'en fout à l'année longue des sans-abri. Entre 30 degrés puis moins 20, tout le monde se fiche d'eux autres. Puis à partir de moins 21, ils font tout semblant qu'ils ont une conscience par rapport à cette question-là. Je sais pas. J'ai bien la misère avec la surenchère qui, dans le fond, on dirait, sert juste à exciter le monde.
Ouais, mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que à un moment donné aussi, il y a des trucs qui reviennent de façon cyclique et à un moment donné, ça devient insupportable. Écoute, j'avais 20 ans là, j'étais jeune reporter dans une salle des nouvelles, puis ça prenait toujours, puis c'était toujours celui qui venait d'arriver, c'est le journaliste qui vient d'arriver. Bon, du Rocher, cette année c'est à ton tour, c'est toi qui vas aller faire le reportage sur le fait qu'il fait super froid. Fait que là, j'étais allée interviewer. Oui, écoute, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais allée dans le vieux port, dans le port de Montréal, interviewer des débardeurs. Et tu sais, eux, ils ont pas le choix. Ils travaillent dehors toute la journée. Puis après ça, j'étais allée à Tropique Nord, qui est si les gens connaissent pas, c'est un immeuble près du casino où il y a une serre intérieure. Donc, les gens ont un balcon. Puis, en plein hiver, même quand il fait moins 40, ils sont là sur leur balcon en train de prendre leur petit café avec leurs petites plantes et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça revient chaque année, le froid. Fait qu'arrêtez de capoter, là.
Le sujet est préparé, puis celui de l'été aussi. Oubliez pas de boire de l'eau, mettez de la crème solaire. Puis le critique facteur vent, là. Tantôt, la fille a dit, il fait moins 21, ressenti moins 48. De quoi tu parles?
Ben là...
Écoute bien, là, à un moment donné, t'as 27 degrés de différence. Là. C'est comme 30 en été. Là. C'est comme si tu disais, il fait 30, mais il vente aujourd'hui, donc vous allez ressentir 3. Je veux dire, pouce, mais pouce égal. Il y a comme toujours quelque chose de vraiment trop alarmiste. Puis le vent, là, as-tu remarqué que le facteur vent, il rafraîchit jamais l'été? C'est-tu pourquoi? Parce que l'été, il faut s'inquiéter du fait qu'il fait trop chaud. Fait qu'on nous parle plus du vent. Quand
c'est
il fait 30
l'humidex.
Degrés l'été, on dit pas il fait 30 degrés, vous allez ressentir 22. On dit le facteur humidité. Donc, il fait 30, vous allez sentir 52. Il y a comme toujours quelque chose. Puis moins 20 en passant, c'est pas deux fois plus froid que moins 10. Arrêtez de dire ça. Parce que si tu le mets en Fahrenheit, c'est moins 4 puis 14. Puis si tu le mets en Kelvin, c'est 253 puis 263. C'est un facteur relatif. C'est pas un facteur absolu. Fait qu'on dirait que quand on perd 3 degrés de plus, tout le monde se met à pleurer. On est fait de même, les humains. Mais dans le fond, il y a quelqu'un qui disait ça. L'humain n'est pas fait pour vivre à des températures polaires. Ben non, l'humain n'est pas fait pour vivre à des températures polaires. C'est pour ça qu'on a des tuques, puis des manteaux, puis des bas.
Mais ça, c'est un très bon point que tu soulèves. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je pense que tu enlèves ton droit à chialer contre l'hiver si tu t'habilles pas comme du monde pour l'hiver. Si tu ne mets pas une tuque, une écharpe, des mitaines, des vrais bottes d'hiver et préférablement des combines, tu perds le droit de chialer contre l'hiver. Parce que quand t'es bien habillé, là, tu peux aller te promener sur le Mont-Royal pendant 3 heures de temps, il y a zéro problème. Oui. Au pire, t'as les poils de nez qui vont peut-être te givrer un peu, ou tu vas peut-être avoir les dents qui claquent un peu, mais ça devient... Quand t'es bien protégé... Moi, j'adore les combines. Je trouve que c'est la plus belle invention depuis le pain tranché, les combines. Mais qui, aujourd'hui, en 2023, porte des combines?
Ben, c'est ça. Puis il faisait plus froid dans le bon vieux temps, puis le monde s'habillait plus. Mais en passant, moi, je suis pas en train de nier l'idée que des gens peuvent ne pas aimer l'hiver, là, j'en connais plein, puis c'est correct. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'idée de faire croire au monde, avec des moyens un peu détournés, qu'ils vont mourir. Quelqu'un qui parlait de la circulation tantôt, qui dit, là, la glace noire, c'est extrêmement dangereux, on voit la circulation. Alors là, ça doit brasser pas mal. La personne dit, oui, ben en ce moment, il y a juste une sortie de route sur la 15, mais il devrait y en avoir plus. Ben, parle-nous pas de ça, s'il y en a pas plus. Dis-nous pas qu'il devrait y en avoir plus.
Ouais, je comprends.
Une, puis c'est tout.
Oui, puis c'est aussi l'alarmisme de bon, il faut le dire, là, des réseaux aussi de nouvelles 24 heures. Là, à un moment donné, oui, ça. Il faut que tu meubles le temps, puis à un moment donné... Il faut remplir aussi, puis c'est normal. Mais je pense que quelque part dans l'histoire de l'humanité, on a, de la même façon qu'on a oublié de manger, on sait plus. Avant, on savait comment manger. Tu sais, les gens avaient besoin de nutritionnistes pour nous dire, ben, il faut que tu fasses des repas équilibrés, puis il faut que tu manges des fruits selon la saison, puis des aliments et tout. De la même façon qu'avant, on n'avait pas besoin, on savait comment manger. Ben, avant, on savait comment s'habiller, puis on savait comment vivre avec le froid. On a l'impression que maintenant, les gens sont comme...
Bon point, mais quand on met toujours la responsabilité sur les autres, c'est ça que ça crée comme citoyen, c'est que c'est toute la faute des autres. Et là, ben, les autres pour faire de l'argent. Écoute, tantôt, il nous disait, là, si vous allez en voiture, traînez une couverture puis une chandelle en cas de panne. Je veux dire, qui a déjà eu la vie sauve avec une chandelle en cas de panne? Je veux dire, à moins que tu fasses le trajet Montréal-Nunavik, tu sors de ton char, si c'est une panne, puis tu rentres dans un commerce, puis tu prends ton cellulaire, puis tu appelles une remorqueuse. Tu sais, je veux dire, on parle du 1 cas sur 100 millions pour énerver le monde, je sais pas, tu sais, mais il y a un autre tantôt qui disait la chaufferette, c'est un très bon moyen pour déglacer le pare-brise. Arrête donc. Moi, je pensais mettre une chandelle, justement, tu sais, pour faire fondre la glace. Ça devient burlesque tellement que c'est gonflé. Écoute, à l'hélium.
Ouais. On vit dans un monde où on dit aux gens, ne mettez pas un chat dans le micro-ondes. Fait qu'on peut bien dire aux gens comment dégivrer leur pare-brise. c'est une excellente chronique et, ben, moi, j'adore n'importe quelle occasion d'écouter du Dominique Michel chanter J'aille l'hiver. Merci beaucoup, Guy Nantel.
Merci à toi. À bientôt.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher.
Bon, écoutez, c'est une histoire complètement délirante. Au début, je pensais que c'était un gag. Et oui, en effet, c'est un gag, mais pas tant que ça. Donc, je vous raconte l'histoire qui m'a beaucoup fait sourire. Selon TripAdvisor, le meilleur restaurant à Montréal s'appellerait le Nouveau Duluth. Il y a juste un tout petit souci, c'est que ce restaurant n'existe pas. Il a été imaginé de toutes pièces par quelqu'un qui aime bien faire des blagues puisqu'il est humoriste dans la vie de tous les jours. Il s'appelle Charles Deschamps et je l'ai au bout de la ligne. Monsieur Deschamps, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ben, moi, ça va très bien, mais vous, ça doit bien aller dans votre vie parce que vous avez mis sur pied au complet un canular et le canular a fonctionné. Donc, vous avez prouvé à tout le monde que TripAdvisor, c'est n'importe quoi.
C'est un peu n'importe quoi, malheureusement, TripAdvisor.
Alors, expliquez-nous comment tout ça a commencé. J'imagine qu'il y a peut-être un petit peu de bière qui est impliquée là-dedans. Vous avez peut-être un petit peu beaucoup bu avec des amis. Vous avez fait un pari un peu fou. Est-ce que je me trompe?
On s'est fait prendre le propre jeu. Ça a vraiment commencé pour féliciter mon ami Joe Guérin d'être un bon hôte. Alors, pendant qu'on prenait un verre chez lui, tranquillement, là, c'est le rapport en boisson... J'ai créé un compte TripAdvisor qui a pris à peu près 22 secondes à faire. J'ai laissé moi-même une note de 5 étoiles en disant qu'il y avait le meilleur barman en ville ici. Puis la blague a commencé là. On en a parlé à sous-écoute. On est devenu dans le top 20 juste avec la mention du Nouveau Duluth à sous-écoute. Puis là, on en a reparlé dans un ou deux podcasts, puis on est devenu le meilleur bar à Montréal. Et là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des réservations. Uber Eats était fâché qu'on ne veuille pas faire affaire avec eux pour livrer notre nourriture qui était inexistante. Ça a été plus rapide qu'on pensait.
OK. Alors, quand vous dites sous-écoute, c'est le podcast donc d'un autre humoriste, Mike Ward. Donc, le oui. simple fait d'avoir fait ce truc-là en blague, vraiment, parce que l'idée n'est pas mauvaise, on va prendre un verre chez un ami, on dit « Oh mon Dieu, t'es tellement un bon barman, tu mériterais d'avoir 5 étoiles sur TripAdvisor. » Ben, vous avez amené l'idée jusqu'au bout, mais il y a des gens qui ont vraiment mordu à l'hameçon, parce que après ça, il y a plein de gens qui sont allés mettre des commentaires. Mais est-ce que vous aviez prévu dès le départ que ça allait se retrouver numéro un à Montréal à cause de
on ne pensait tellement pas se rendre jusque-là. Tu sais, même avec les deux mentions dans les podcasts, on s'est rendu à 80 commentaires. 80 commentaires pour être le meilleur restaurant à Montréal, c'est pas beaucoup, on trouve. C'est n'importe qui peut avoir 80 personnes dans son réseau, demander de mettre 5 étoiles sur n'importe quoi puis de devenir le meilleur sur 4000 restaurants à Montréal. C'est la preuve que TripAdvisor a plusieurs failles.
Oui, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de modération, il n'y a aucune vérification, mais ça veut dire que ça peut... Vous avez prouvé que c'était ridicule dans le sens positif, mais il faudrait aussi prouver que c'est ridicule dans le sens négatif, c'est-à-dire que si moi, j'ai mon pire ennemi ouvre un restaurant, c'est très facile pour moi de demander à 80 de mes amis d'aller mettre des commentaires négatifs, même s'ils n'ont jamais mis les pieds dans le restaurant, puis ce gars-là va être obligé de fermer son restaurant.
C'est vraiment problématique. Moi, j'ai un ami qui était gérant d'un bar sur Jean Talon qui écrit à tout le monde comme hey, s'il vous plaît, allez donner une bonne note au bar où je travaille parce qu'il y a une cliente qui était insatisfaite qui a demandé à tous leurs amis de mettre 0 étoile ou 1 étoile. Puis ça l'a vraiment nui à l'entreprise. Fait que c'est hyper dangereux comme site.
Ouais. Alors, racontez-nous quand même un petit peu dans les détails, parce que là, j'ai devant les yeux une photo du mini-bar, en fait, qu'il y a chez vos amis, vraiment dans un appartement. Donc, vous avez pris une photo de ça pour illustrer à quoi ressemblait le nouveau Duluth. Mais quand on regarde la photo, excusez-moi, mais ça a l'air quand même un peu briche de bruche, là. Ça a l'air un peu bric-à-brac.
C'est un bar de sous-sol. C'est un très beau bar de sous-sol, mais ça reste un bar de sous-sol. Le maximum qu'on a été à l'intérieur, c'est peut-être 12-13 personnes. Mais c'est un endroit où on se sent chez nous, on est très bien, mais malheureusement, on n'a pas les permis pour l'ouvrir au public. C'est pas la vocation de mon ami, malheureusement, Jonathan Guérin. C'est un humoriste, il veut continuer à faire de l'humour, je ne veux pas être propriétaire de bar, mais il s'est ramassé avec le meilleur établissement à Montréal. Mais c'était complètement fou. À un moment donné, on avait des appels de l'international, du non. Brésil, des États-Unis, du monde qui voulait réserver l'endroit au complet. Puis à chaque fois, je savais pas quoi dire. Je disais, excusez-nous, on est complet pour 2 mois. Rappelez-nous le mois prochain, on devrait s'adapter pour notre système de réservation. Et même là, on s'amusait, on était comme, hey, est-ce qu'on pousse l'histoire encore plus loin? J'avais acheté un nouveau téléphone avec un numéro de téléphone pour que le monde puisse laisser des messages sur la boîte vocale. On voulait que le monde nous... on voulait que le message sur la boîte vocale, c'est « Dites-nous pourquoi on devrait vous laisser une place au nouveau Duluth. »
Très drôle.
Que le monde essaie de trouver des excuses pour rentrer. On parlait même d'avoir des produits dérivés en épicerie. Le « That shows nouveau Duluth. » S'amuser à pousser la blague plus loin.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait?
On s'est fait démasquer avant, on n'a pas eu le temps.
Oh, donc c'est vraiment juste ça. Alors, vous avez été démasqué parce que, bon, CBC a fait un reportage. Puis aussi, il y a des gens qui se sont plaints à TripAdvisor parce que c'est sûr qu'à force de niaiser les gens en disant, ben, on ne pouvait pas avoir de réservation avant 2 mois. En plus, vous aviez Uber Eats sur le dos qui ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas faire de la livraison à partir de chez vous. Comment vous avez réagi quand vous avez été démasqué, que votre balloon a été dégonflé?
En fait, j'ai été quasiment un peu soulagé parce que quand CBC m'appelait, je refusais de répondre. Mais moi, je pensais qu'il voulait tout simplement interviewer le propriétaire du meilleur restaurant à Montréal. Et là, j'étais pas game de... Mon anglais est bon, mais pas assez bon pour jouer le personnage du propriétaire du meilleur restaurant à Montréal. Mais je travaille dans la restauration depuis que je suis majeur, en fait. Mais j'étais pas... mes connaissances sont pas assez... je suis pas un grand chef, mettons.
D'accord.
Alors, je n'étais pas game de répondre à cette interview-là en anglais. Il y a une chance que je l'ai pas fait. Au début, on en parlait avec les amis. On voulait répondre à l'entrevue avec... une trame sonore de restaurant en arrière, faire des faux bruits d'assiette. Une chance qu'on l'a pas fait parce que là, on aurait fait rire de nous par CBC.
Oui. Mais quand vous dites que vous êtes soulagé, c'est que ça, vous n'avez pas été obligé de faire le jeu. Mais amusons-nous ensemble, puisque vous êtes humoriste, Charles. Mettons que moi, je vous appelle puis que je dis, j'aimerais ça faire une entrevue avec le propriétaire, le chef de cet excellent restaurant, Le Nouveau du Lutte, qui a 5 étoiles et qui est le meilleur restaurant à Montréal. Monsieur Deschamps, quel est le secret dans la sauce du Nouveau du Lutte qui fait que ça connaît un tel succès?
En fait, le secret du Nouveau du Lutte, c'est que tout ce qui est vendu à Montréal sur Uber Eats est disponible au Nouveau du Lutte. Si vous voulez manger quoi que ce soit, on va le commander pour vous. C'est sûr que le temps d'attente varie aux alentours de 30 à 40 minutes. Et ce qui est le fun, c'est qu'étant donné que c'est pas un établissement légal, l'alcool est gratuit.
Ben oui,
c'est très drôle. Apporter votre vin, un apporter votre bière, c'est un endroit unique à Montréal.
Apportez votre vin, apportez votre bière, apportez votre bouffe, apportez votre chaise aussi, tant qu'à y être, parce que c'est un petit peu
ça
petit.
Ça pourrait être ça. Il y a plusieurs personnes qui ont amené leurs jeux de société, leurs jeux vidéo. On a eu des soirées karaoké.
C'est très drôle, c'est très drôle. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que donc, vous nous l'avez dit, je vous ai présenté comme ça, vous êtes humoriste, mais en même temps aussi, vous avez travaillé dans la restauration. Donc, en faisant ce canular-là, vous réunissez d'une certaine façon vos deux passions, parce que vous dénoncez en fait une absurdité dans le monde de la restauration, puis en même temps vous nous faites rire. On pousse tous un grand éclat de rire quand on voit ça.
Oui, mais depuis que ce coup-là a été fait, il y en a d'autres qui sont en tournage et en préparation qui vont sortir la semaine prochaine.
Ah.
Fait que ça va devenir une série de canulars.
Mais une série de canulars qui vont être faits dans quel but? De promouvoir à vous votre carrière d'humoriste, vous et vos amis, vos comparses, ou qui vont aussi avoir un but de dénonciation de certaines contradictions ou certaines affaires qui clochent dans la société?
C'est plus un but de dénoncer, mais surtout c'est que j'ai du plaisir dans ces canulars-là. Il y a une montée d'adrénaline qui est le fun. Pour promouvoir ma carrière, pas tant que ça, c'est pas ça le but, c'est que j'ai appris quelque chose à l'école de l'humour qui m'a fait un peu de peine, c'est que souvent sur scène, quand on dénonce quelque chose socialement, ça nuit à la cause.
Ah oui?
Parce que le public dans la salle se dit « Ah, enfin quelqu'un dit, je suis pas obligé d'entreprendre aucune action ».
Je comprends tout à fait. Oui, c'est ça. C'est comme quand on met un petit pouce en l'air, on se sent dédouané. On a mis un petit pouce en l'air à quelqu'un qui dénonce le racisme. Donc, j'ai pas besoin, moi, de combattre le racisme dans ma vie de tous les jours. J'ai mis mon petit pouce en l'air. C'est un petit peu ce principe-là?
C'est un peu exactement ça sur scène. Je faisais beaucoup plus de critiques sociales dans mes numéros avant, mais là, ça me manque beaucoup. Fait que l'idée d'y aller plus vers l'art du canular m'a tenté. Alors, il y en a un qui sort la semaine prochaine, ça va être comme ça pour la prochaine année.
Bon, c'est possible que je sois obligé, ça sera un plaisir, évidemment, de vous réinviter pour parler de cet autre canular-là. Mais quand même, juste avant qu'on se quitte, je veux que vous m'expliquiez, est-ce que c'est complètement ridicule, TripAdvisor, ou dans certains cas, ça peut quand même être utile? Est-ce que, par exemple, quand vous, si on voyage à l'étranger, moi, je m'en sers des fois, j'arrive dans une ville où je connais rien, je connais personne, il n'y a personne pour me recommander, pour me dire « Hey, Sophie, au coin de la rue, là, il y a un petit bar vraiment sympathique ou un petit restaurant. » ça m'arrive d'aller sur TripAdvisor. Est-ce qu'on devrait complètement arrêter de les utiliser?
L'idée de base de TripAdvisor est bonne, mais malheureusement, il y a une étude qui est sortie en 2018 que 10% des critiques sur TripAdvisor sont fausses.
Wow.
C'est quand même un gros
pourcentage. C'est beaucoup, ça?
Et le petit routard est encore disponible pour beaucoup de pays à un prix assez modique. Sinon, il y a beaucoup de manières de rencontrer des gens locaux quand on va dans une ville puis d'aller manger dans des établissements qui sont des fois méconnus du grand public, qui sont pas des attrapes touristiques, qui sont assez merveilleux. Moi, le bon vieux bouche-à-oreille, j'y crois encore.
Ah, c'est très intéressant, c'est un très bon point. Mais en même temps, comme je vous disais, si on arrive dans un endroit vraiment à l'improviste, on n'a pas nécessairement le temps d'appeler 25 de nos amis pour nous dire « Es-tu déjà allé à Flin Flon au Manitoba ou à un petit village où il y a 500 habitants? » Donc, TripAdvisor peut nous dédouaner dans ce cas-là. C'est quoi le commentaire le plus rigolo que vous avez lu dans ce dossier-là ou, mettons, un appel le plus intriguant exemple, quelqu'un qui était fâché ou quelqu'un qui je sais pas moi, qui voulait faire une réservation et qui a fait un commentaire. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, qui êtes humoriste, le plus rire?
Ah, en fait, moi, je pense que c'est l'ensemble de la page. On parlait qu'on était sur le plateau Mont-Royal et qu'on avait une vue sur la mer. Il y avait des choses tellement absurdes, le fait que, contrairement à la cage au sport, on donne des ailes de poulet à tous les buts du Canadien. La totalité de la page était tellement absurde que je comprenais pas que le monde nous appelle pour réserver dans ce restaurant-là. Les photos étaient n'importe quoi, les commentaires étaient n'importe quoi. On disait qu'on acceptait Visa, Mastercard, mais que c'était argent comptant seulement. Il y a rien qui marchait.
J'adore ça. Donc, normalement, en allant sur la page du site, les gens auraient dû avoir la puce à l'oreille. C'est aussi une leçon, au-delà de TripAdvisor, que les gens ne lisent pas avant d'agir. C'est-à-dire que normalement, les gens, s'ils avaient pris connaissance de ce qui est écrit sur le site, auraient tout simplement dû dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure, je vais pas là.
Ouais, totalement. Il faut que le monde arrête de lire les gros titres.
Oui, vous dites ça à une journaliste. Je le sais. Il faut lire autre chose que juste le titre. Charles Deschamps, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Je suis juste très inquiète parce que j'ai peur de savoir c'est quoi votre prochain canular. J'espère que je tomberai pas dedans et que je vais être assez lucide pour voir à travers votre jeu. Vous êtes un petit coquin, vous et vos amis. Merci beaucoup, Charles Deschamps. Donc, le faux propriétaire d'un faux restaurant qui a été faussement le plus populaire de Montréal sur TripAdvisor.
Cube Radio.